Bonne fin de soirée. Bienvenue à l'Antichambre. Une grosse émission à vous proposer ce soir. Félix Auger-Aliassime sera mon invité un peu plus tard au cours de l'émission. Et je reçois également les médaillés olympiques en judo, Antoine Valois-Fortier et Catherine Beauchemin-Pinard. Maintenant, c'est le moment de vous présenter mon trio de panélistes, Stéphane Fizet.
Les experts,
PJ Stein, les prophètes. Et Bruno prophète. Gervais. Messieurs, d'abord, bonsoir.
Bonsoir. Alors,
là, Luc.
PJ pratique, s'exerce pour sa manchette depuis une dizaine de minutes.
Faut commencer avec lui.
Non, on va commencer avec toi, mon cher Bruno. À toi les honneurs pour les manchettes albinogènes.
Pour ma manchette, moi, il ne sera pas le dernier. Et je parle de Jonathan Drouin dans l'entrevue qu'on a vue avec Chantal Maccabée hier. Et je fais un lien un peu avec tout ça, l'anxiété, les problèmes qu'un jeune joueur, qu'un athlète de tout niveau peut avoir comme ça, un peu avec les commotions cérébrales, où il y a eu une époque où c'était juste tassé du revers de la main, et là, les commotions cérébrales, on a compris pas mal plus c'était quoi, puis compris les impacts que ça peut avoir sur le long terme, et travailler fort à essayer de les prévenir. Mais c'est un peu la même chose avec ça, où de voir un Jonathan Drouin en parler, je pense que ça va donner confiance à certaines personnes ou même à d'autres personnes d'être capables de réaliser qu'ils sont en train de le vivre et d'en parler, d'aller chercher de l'aide pour pas justement se rendre au bout du rouleau. Donc, bravo à Jonathan, beaucoup de courage. Puis là, je lui souhaite que la prochaine étape, celle-là de revenir au jeu, de se rétablir, soit pleine de succès.
Et j'espère que le média est fini avec ça.
Ouais. Je pense que oui, puis il va avoir du plaisir. Il l'a dit à Chantal, son objectif, c'est d'avoir du plaisir. Et quand tu as du plaisir, vous le savez, comme on en a ce soir, tout va bien. PJ,
bonne chance.
C'est le moment de
On va parler des avantages numériques tantôt.
Parce que ce soir, vous allez nous présenter vos formations d'avantages numériques pour le Canadien.
Oui, puis c'est pas juste... Parce qu'il y a une personne pour moi qui mérite d'être toujours dans chaque moment spécial d'une game pour qu'est-ce qu'il avait fait dans les dernières 5-6 ans avec les Canadiens. Mais l'avenir des Canadiens, les joueurs qu'on va parler de tantôt, comme d'amener à regarder...
Comment? Tu l'as bien fait, condamné, très bien.
Merci beaucoup, je suis francophone dans l'art des hommes. mais c'est Brendan Gallagher, puis si je fais mes avantages numériques tantôt, pour la première fois, chaque année, c'était avantage numérique... Tatar, Dano, Dwayne, Gallagher. Vas-y. Avant.
Dano.
Maintenant, ça va être ta Toffoli, ta Caulfield, ta Hoffman, maintenant ta Suzuki. Je ne sais pas si elle a assez de place pour Gallagher. Peut-être ces deux-là peuvent m'aider ou changer mon opinion, mais moi, j'ai une but sur l'avantage numérique en 7 ans, alors je
vais donner des conseils.
Un expert.
Vous êtes 3 experts de l'avantage numérique et ce soir, j'ai hâte de vous entendre sur vos différentes formations. Stéphane, toi, gardien, tu voyais tout de toute façon. Ouais, tu as une vision sur tout sur la glace.
Vous allez voir tantôt que je connais pas grand-chose non plus.
Ta manchette, mon cher Stéphane.
Moi, je veux rester comme un petit peu en dehors du Canadien, si ça commence demain et tout ça. Fait que j'y étais avec un gros félicitation. C'était à Eve Cascon qui... Elle a accompli vraiment une chose incroyable dans la dernière semaine. C'est, elle a joué un match junior majeur pour les Olympiques de Gatineau qu'elle a gagné 8-1. Ensuite, elle joue collégial 3A avec les garçons, là, avec les gars, tout ça. Elle joue pour les Pats de Saint-Laurent. Elle a gagné sa première partie aussi 6-1. C'est, tu vois, elle n'est pas là juste pour une bonne publicité. Elle n'est pas là juste pour remplir un chandail. Elle est capable de faire la job, puis... Je voulais tout simplement dire, crime, félicitations. Puis c'est le fun de voir ça. C'est le fun pour les jeunes filles qui voient ça, avoir un modèle comme ça. Puis ça va être notre future gardienne de but aux Olympiques. Ça, c'est sûr et certain. Puis qu'elle va revenir avec une médaille d'or, je suis même pas inquiet. Non.
Elle saisit les chances qu'on lui donne. Et bravo d'ailleurs à Eve Gasso, qui a participé au défi hockey ici à l'antichambre et qui en a fait... Il a fait passer certains panélistes... comme des juniors. Mais bon, ce n'est pas le but de la discussion de ce soir. Parlant de jeunes, rapidement, ce soir, le Canadien a annoncé la composition des joueurs qui seront au camp d'entraînement du Canadien. Camp d'entraînement qui va commencer demain avec les tests physiques. On parle de 70 joueurs, 40 attaquants, 23 défenseurs, 7 gardiens. Parmi les joueurs qui étaient au camp, des recrues, vous voyez quelques noms, Joshua Roy, Xavier Simoneau, évidemment Raphaël, Harvey Pinard, le gardien Alexis Gravel. Ça pour dire que 70 joueurs, messieurs, vous en avez fait des camps d'entraînement, c'est beaucoup.
C'est énorme.
C'est énorme, mais quand même, le peu de temps que certains y seront, c'est de faire leur...
C'est une belle expérience pour eux autres, mais la seule chose qui est plate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour eux.
Non, non.
Mais c'est juste pour de l'expérience.
Mais pour une organisation, quand tu regardes ça, tous ces joueurs-là, il y en a beaucoup. Quand tu y vas cas par cas, il y en a beaucoup qui n'ont pas joué des matchs l'année dernière. Vraiment pas beaucoup de matchs. Ça a été une année bien compliquée. Fait que de pouvoir rassembler, donner un certain millage, une certaine expérience. Habituellement, dans ces camps-là, tu essaies tout le temps de créer les moments où les jeunes recrues qui arrivent vont être mélangés à certains points avec les vétérans, vivre cette expérience-là. Mais ça te permet, comme organisation aussi, d'apprendre à les connaître.
Oui.
Tu n'as même pas pu les voir jouer. Tu n'as même pas pu aller les rencontrer. Francis Bouillon, qui s'occupe du développement, ou ceux-là qui s'occupent du développement, tu peux, habituellement, tu vas voyager, tu vas aller voir un match, tu vas manger après, comment ça va ta pension. Tu apprends à connaître le joueur. Là, ils n'ont pas eu cette occasion-là. Fait que je pense que c'est de forcer un peu d'en avoir le plus possible pour avoir, commencer à avoir des données sur ces gars-là.
Moi, je pense que c'est une organisation qui est difficile si tu es un jeune. À part de Caulfield puis Romanoff, il n'y a pas beaucoup de positions.
Mais alors, au moins de peut-être forcer la main pour se souvenir de toi pour plus tard.
Quand tu es un jeune, tu arrives dans le camp puis tu vois que tu n'as aucune chance à faire l'équipe, c'est juste mentalement, c'est difficile. Alors ça, c'est juste quelque chose que... Parce qu'il y a, à part de troisième centre, que Evans, à part de cette position-là, il y a... Sur le quatrième trio, on a... Nous autres, on l'a fait. Armia qui fait 3,4 millions à l'aile droite. T'as Lekkonen qui fait 2 points quelques sur l'aile gauche. Puis n'oublie pas qu'on a Byron qui s'en vient à 3,5 qui est blessé jusqu'à Noël.
Exact.
Alors, mais quand même... C'est où les positions? C'est difficile.
Ce soir, on ne réglera pas le troisième, le quatrième trio, mais on va peut-être tenter, je dis bien tenter, avec mes experts.
Experts.
Les experts, oui. L'avantage numérique chez le Canadien. Qui vous aimeriez positionner sur la première et la deuxième vague? Mais d'abord, il faut dire que le Canadien est amené 17e en avantage numérique l'an dernier. Et quand on regarde les pointeurs de l'équipe avec un homme en plus... Sur le groupe que vous voyez, bien, il y en a trois qui ne sont plus là. Corey Perry, Tomáš Tatar. Et les chances de voir Shea Weber cette année sont pratiquement nulles. Donc, c'est quand même beaucoup de travail pour pouvoir remplacer ces joueurs-là, même si on a fait des ajouts dans la formation, messieurs.
Bien, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Surtout, je pense que Shea Weber a amené une dynamique complètement différente avec son lancer. Mais c'est tout le temps à recommencer. Et avec ton personnel, présentement, tu as beaucoup de nouveaux visages. Comme à 5 contre 5, c'est quelque chose qui va être à recommencer. Mais ça va être intéressant de voir comment ils vont utiliser ces combinaisons-là.
Sur ta première unité, toi, mon cher Bruno, on a de beaux tableaux, là.
On lance ça.
On commence tout de suite à tour de rôle. Votre première unité, première vague. Bruno, d'abord, explique-nous ça.
À s'amuser, là, à faire ça, l'avantage numérique, comme ça, tôt, il y a tellement d'éléments qui rentrent dans la sélection. Puis comment tu vas bâtir tes unités? Mais moi, j'ai été avec la simplicité, surtout de début de saison. Moi, je vois un trio en Suzuki, Caulfield puis Toffoli, comme on a vu l'année dernière. Donc, je le garde intact. Puis en début comme ça, c'est plus facile de les garder ensemble. J'aime beaucoup le fait... Tu sais, Caulfield aime beaucoup être au haut des cercles du côté de son lancer sur réception. Toffoli était très bien, ce qu'on appelle le bumper. Puis cette dimension-là m'amène un peu, exemple, Ovechkin avec Oshie à Washington, ou Point Stamkos, ou à l'époque de Laine à Winnipeg, c'était Shifley, le bumper. Fait que deux droitiers ensemble, ou un gars comme Suzuki puis Hoffman qui peuvent s'interchanger. Quand Hoffman est en haut, c'est un lancer sur réception. Puis Suzuki aimait ramener la rondelle vers là. Puis comme droitier... Il y avait du succès à faire cette passe-là transversale, même s'il était droitier, en descendant, en forçant, en montrant qu'il pouvait lancer, puis ensuite faire une passe transversale. Puis t'as Jeff Petrie qui est en haut, qui est prêt
le
à faire des lancers, le général transporter à rondelle et prendre des lancers.
Voilà pour ta première vague.
PJ, il va en avoir d'autres?
Ben, moi, je pensais que c'était correct.
Pour la deuxième.
Non.
On va revenir pour la deuxième.
Ça, c'est du succès.
Je pensais que c'était fini, c'est éclairé.
Non, il y a d'autres suggestions.
Celle qui est correcte, la mienne. Prophète. C'est un peu les mêmes joueurs avec Bruno.
Placé
je mets Hoffman en bas parce qu'il est capable de faire le... Excuse-moi le terme anglais, mais wrap-around de cette position-là. Il peut faire une passe sur réception à 73, à 22. Puis Suzuki, pour moi, on a vu qu'il était capable de faire sur le demi-mur l'année passée. Alors, je le laisse là. Mais comme Bruno dit, c'est meilleur. C'est un gaucher qui est là parce que ça te donne un meilleur angle. Mais Suzuki m'a impressionné d'assez l'année passée pour le mettre encore là. Mais ces deux gars sont interchangeables.
Ça se ressemble un peu à ce que vous avez présenté.
Oui, la mienne est mieux, mais quand même, j'ai aimé l'effort de Bruno.
Bon, Stéphane, maintenant...
Je cherchais ma fin tantôt, c'est ça, tu sais, qu'il l'avait. Hein?
De ton côté, Stéphane, est-ce que tu vas...
Non, moi, ça J'ai mis le préféré à PJ. J'ai mis Gallagher. Gallagher devant le filet.
Sur la première vague.
Caulfield, Suzuki. Moi, je place Hoffman dans le milieu. Pourquoi je place Hoffman dans le milieu? Parce que Suzuki, de son côté, il aime rentrer, comme Bruno le disait, il aime rentrer au filet puis prendre son bon lancer. Fait qu'en plaçant Hoffman même, de même dans le centre, mais il est en position d'avoir un tir sur réception d'une passe de Caulfield. Caulfield, c'est un bon passeur, puis tout ça. En même temps, de son bord, il est en position sur un tir de réception aussi. Gallagher, il n'y en a pas gros qui joue pour le Canadien, qui est capable de faire quand même sa job devant le filet, de déranger le gardien de but, de déranger les défenseurs, de sauter ses rondelles libres devant le filet. Fait que moi, je le laisse là encore.
Intéressant.
C'est ça. Premier.
Mais quand même, t'es pas d'accord, évidemment.
Ben non.
Mais moi, j'aime bien aussi ce que Stéphane amène. J'ai hâte de voir pour la deuxième unité maintenant. Est-ce que Gallagher va se retrouver sur ta deuxième unité? Enfin, on va commencer avec Stéphane. T'sais, excuse-moi, Bruno.
Ben oui.
Stéphane, on va y aller avec
Gallagher. Il est sur son deuxième aussi.
Ta deuxième unité, Stéphane.
Il est en pointe, sa deuxième. Wow.
Là, j'y vais complètement différent. J'y vais avec deux défenseurs. J'y vais avec Savard puis Romanov.
Oh là là.
Je mets Drouin, Toffoli, côté gauche, là, puis Anderson devant le filet. Je veux avoir deux styles d'avantages numériques différents. Le premier, celui, on appelle ça Umbrella, là, un peu, là, c'est formation parapluie, puis tout ça. Fait que t'as Romanov qui tire sur réception, t'as Savard tire sur réception, t'as Toffoli puis Drouin qui peut être un bon passeur, qui peut rentrer au filet, puis t'as Anderson encore qui est devant le filet, gros bonhomme, qui peut déranger quand même le gardien de but. Mais j'aime avoir deux unités spéciales différentes pour rendre la tâche plus difficile aux désavantages numériques de l'autre équipe.
Puis au gardien aussi.
Puis
c'est un détail, mais c'est entièrement raison. Quand une équipe est capable d'avoir ça, puis tu as vraiment deux unités distinctes, c'est clair, qui sont capables d'amener deux styles différents. Surtout pendant la saison, quand tu as beaucoup d'équipes, tu arrives d'avoir deux vagues qui ont des sorties de zone différentes, qui se placent différemment, ça devient un peu plus compliqué défensivement, surtout pendant le match, là, la façon de tes changements, t'as un gars qui est dans la boîte, un gars qui est blessé, peu importe. Fait que des fois, c'est là que tu peux créer quelque chose. Puis c'est le bon vieux 2-3. Équipe Canada a fait ça pendant des années. Mmh. On a eu du succès avec ça.
Je suis vieux aussi.
Je vois ça,
Avec 70, s'il y avait des avantages numériques comme ça.
PJ, ta deuxième unité en avantage.
Gallagher.
Gallagher, il se retrouve ma manchette, puis je m'excuse. Moi, c'est différent un peu parce que c'est plutôt un avantage numérique où on va lancer la rondelle. J'ai les mains de Drouin sur le côté. Je n'aimais pas quand il était sur l'autre côté. On le mettait sur le côté gauche l'année passée droite, je ne sais pas, à côté droite pour le gardien de but. C'est un très bon passeur. Moi, j'aime Armia devant le filet. C'est un gros bonhomme. Ça, c'est mon argument avec Gallagher. Ça, c'est mon seul place où je voulais mettre Gallagher, mais je pense que je vais commencer avec Armia, beaucoup plus grand. Il y a des bonnes mains. Anderson encore dans le milieu de tout ça. Mais c'est Anderson puis Armia qui travaillent ensemble, un, deux. Puis on lance les rondelles un peu comme
Dvorak du côté droit.
Dvorak avec quoi? Alors t'as gaucher, droitier, gaucher, défenseur dans le milieu. Puis on attaque. C'est pas la même que la première où ça va être plus cute. Ça va être plutôt on sera en fausse au filet.
Parfait, c'est très bien.
Parfait.
Ouais, c'est pas super.
Bruno, pour ta deuxième vague d'avantage numérique?
Bien, il y a tellement d'éléments qui viennent entrer là-dedans. Donc, dans la deuxième vague, ici...
J'ai mis Sidney Crosby.
Connor McDavid devant
Gallagher est là.
Oui, mais Gallagher devant le filet, parce que le travail qu'il fait là, puis un peu dans la mentalité, comme tu mentionnais, puis Jay, de prendre des lancers. Je me posais la question de même mettre Petrie sur celle-là, Romanov sur l'autre, quand tu veux être une unité qui va lancer plus, tu veux Petrie. Mais... J'aimais Drouin quand il rentrait de son côté fort comme ça, et Armia, il y a eu plusieurs équipes qui ont utilisé ça, d'avoir les deux gars, Matthews, Marner, Mané, c'était ça, le gaucher-droitier. Hoffman et Stone l'ont fait avec les Sénateurs, qui rentraient les deux de leur côté fort, qui peuvent y aller de passe transversale, soit de Drouin à Armia, ou vers un joueur qui peut faire dévier la rondelle. Mais moi, j'aime bien Perrault. J'avais mis Perrault avec une barre oblique et Dvorak. Je connais pas encore assez de Dvorak. Puis je ne sais pas quel genre d'utilisation, puis s'il va trouver sa place, puis tant mieux. Je pense qu'il va faire des bons le Canadien. Mais Perrault est comme une carte cachée de gars qui a eu plein d'expérience, qui est capable d'être sur un avantage numérique, qui distribue bien la rondelle.
Mais la seule question avec ça, c'est ça veut dire que lui a besoin d'être dans l'alignement.
Bien, c'est ça, il y a beaucoup de si à tout quand on fait une unité comme ça. Mais oui, fait que si tu mets Perrault, puis là, tu peux y trouver du temps de glace comme ça, tu le mets sur l'avantage numérique, il est capable de se démener là. Mais une autre facette avec qui j'hésitais, si j'ai pas Hoffman sur la première, j'aime beaucoup la combinaison de Drouin. T'sais, moi, je trouve que le bumper est tellement important dans l'avantage numérique. Si tu as un gaucher, Drouin, qui est un passeur, qui peut trouver un bumper gaucher en Hoffman, puis tu as la même chose de l'autre côté avec Suzuki, exemple Caulfield ou Toffoli, c'est là que je trouve que tu es vraiment menaçant dans le centre. Puis aussitôt que tu es menaçant là, dans le cœur, tu peux ouvrir tout le reste à l'extérieur. Fait que c'est des combinaisons, mais
Ce sont d'excellentes propositions, d'ailleurs. Et vous pourrez les commenter sur nos différents médias sociaux, parce qu'on va les présenter aussi, sur nos différents comptes. Ouais. Autre chose qu'on vous a demandé, autre travail, on vous demande beaucoup de travail ce soir.
Oui, c'était beaucoup.
Il y a l'aspect du 3 contre 3. Le Canadien, 3 victoires, 8 défaites dans ce genre de situation l'an dernier. Et on vous a demandé de nous présenter, de nous préparer vos vagues. Donc, quand vous commencez le 3 contre 3, qui est sur la glace pour commencer? Et ainsi de suite, là, vos trois premières combinaisons, si ça se rend jusque-là. Donc, Bruno, on va te permettre de commencer. Quels seraient tes trois premiers joueurs que tu enverrais sur la glace lors de 3 contre 3?
Bien, avec ce qu'on a vu l'année dernière, présentement, il n'y a pas eu de hockey depuis, là, ce qu'on a vu de Caulfield dans le 3 contre 3, la magie qu'il a amené. Fait que je mets Suzuki, Caulfield, Petrie pour commencer. Je mets Dvorak, tu as besoin d'un centre stable dans cette unité-là. Toffoli, qui est là, avec Romanov, quand je parle de défenseur mobile.
T'es pas à risque avec Romanov déjà?
Un peu. Mais là, moi, je compte là-dessus sur la maturité qu'il a pris pendant l'été, qui arrive vraiment après, qui est prêt à être constant dans son jeu. Puis après ça, je vais avec Evans, Hoffman et Savard pour l'autre unité. Savard qui, oui, c'est un défenseur défensif, bloque des lancers au niveau de la Ligue nationale, mais quand tu regardes son passé, c'est un défenseur excellent offensivement. C'est ça qui l'a amené à l'autre niveau. Puis là, c'est trouvé un rôle. Il est encore très mobile. Il est capable de bouger la rondelle. Puis j'ai entre lui et Chiarot, puis j'ai penché pour David Savard.
Intéressant. Donc, TJ, à ton tour?
Oui. Quand tu joues 3 contre 3 ou même 4 contre 4, c'est souvent homme contre homme. Alors, pour moi, tu n'as vraiment pas besoin de défenseur à chaque unité. C'est pour ça que j'ai commencé avec mon premier trio. J'ai commencé avec Suzuki, Caulfield, Toffoli. Sûrement, ça aide si on gagne la mise en jeu. Ça, c'est très important. Oui. Le deuxième, je pense que ça, c'est le temps pour Drouin. On lui donne l'espace, la vitesse à Anderson. Puis comme tu peux mettre Petrie sur les trois unités, mais pour moi, j'avais besoin de mettre surtout dans mon top 6. Puis si on a besoin d'un troisième, c'est sûr Hoffman est capable de scorer. Dvorak, ça va être un joueur qui peut faire des choses un peu comme un Gallagher qui fait tout, mais je pense qu'il a des meilleures mains. Puis Romanov, toi, t'avais dit que c'est encore peu trop tôt pour lui. Une bonne coup de patin. Fait des bonnes passes.
C'est très mobile, absolument. Ses prises de décision doivent être meilleures, mais il faut l'essayer à un moment donné.
C'est à part de Petrie, c'est notre défenseur avec le plus de mobilité, je pense.
Mais un gardien, quand il voit qu'il y a trois attaquants à 3 contre 3, là, il prie-tu le petit Jésus?
J'espère être récupéré à rondelle et l'envoyer à mon joueur qui va partir. Parce que s'il n'y en a pas un des trois qui va revenir. Fait que...
Stéphane, tes trois premiers joueurs sur la glace à 3 contre 3, je pense que tu y vas avec la sécurité.
Bien, sécurité. Suzuki, Caulfield, puis Petrie. Moi, je pense qu'ils, comme Bruno disait, ils l'ont prouvé, puis tout ça, puis ils ont de la vitesse et ils se complètent bien, ils se voient bien sur la patinoire. Ma deuxième vague, je vais avec Anderson, Hoffman, puis Romanov. Moi, je pense que Romanov, il a appris de ses erreurs l'an passé, puis qu'il a la vitesse pour jouer là, à 3 contre 3. Là. Il a les mains aussi. Hoffman, tu l'as dit, il est capable de marquer des buts. Mm-hmm. Anderson, il est capable, c'est un des joueurs qui est capable de contourner les joueurs avec sa vitesse. Fait que je trouve qu'il est bon là. Puis ensuite, Drouin, comme tu as dit, Drouin, il mérite d'être là avec sa vitesse, tout ça, de Rorak. Puis je ramène Petrie.
Aux deux tours.
Même les trois. C'est ça. Viens prendre une gorgée d'eau, puis t'en retournes-y.
D'accord.
Absolument. Vous allez prendre une petite gorgée d'eau.
Ouais, parfait.
Garde-moi après la pause. On va s'amuser à dans le mille, dans le champ, avec d'excellentes affirmations, évidemment, comme à l'habitude. Et je vous rappelle qu'un petit peu plus tard, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Félix Auger-Aliassime, 11e raquette mondiale. À tout de suite.